Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine de mars 2024, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 Sherbrooke et Dechis 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Beaucoup de sujets. Beaucoup de nouvelles de dernière heure aussi. Pourrait-on dire? Hier soir, pendant les nouvelles, donc branle-bas de combat dans toutes les salles de nouvelles au Québec. On apprenait le décès de Brian Mulroney, ancien premier ministre. Dans les derniers bons monsieur, qu'on peut dire. Et ça, ça revenait dans plusieurs commentaires que peu importe l'allégeance politique, c'était un bon monsieur. Évidemment, comme tout bon monsieur, sa carrière a été entachée dans les dernières années avec des scandales d'avoir pris des mallettes d'argent. Mais tout de même, ça a été une éclipse médiatique totale. Tous les bulletins de nouvelles de Radio-Canada ont pris le bord et la biographie de Brian Mulroney a primé. Et du côté de RDI, tour de force, mais on a réuni sur un même plateau Lucien Bouchard, Jean Charest et Michael Fortier pour parler de la vie de Brian Mulroney, mais ne serait-ce que d'avoir Jean Charest et Lucien Bouchard L'un à côté de l'autre, pour jaser ça. Ils ont tous été conservateurs sous Brian. Et peut-être de souligner justement le fait que, bon, ces hommes de cet âge-là, ça peut rester fâché longtemps. Et justement, la petite chicane qu'il avait eue avec Lucien Bouchard, début 90, menant à la création du Bloc québécois. Donc, le meilleur chum de Brian, Lucien, s'en allait faire son propre parti de son bar. Mais cette chicane-là a duré 30 ans. Et se sont réconciliés seulement l'année dernière. Parce que, justement, M. Mulroney savait que c'était ses derniers milles. Et ces messieurs-là, ça ne se parlait plus. Ça avait été des grands chums dans la vie, mais à cause du Bloc, c'est terminé, on ne se parlera plus jamais. Ceci dit, avant la fin, il y a eu réconciliation. Mais c'est tellement, ça parle tellement. T'sais, ça parle, ça témoigne de cette génération-là qui... Oh, tu m'as trahi une fois, c'est terminé, je ne t'adresse plus jamais la parole. Quand même. Bon, évidemment, les réactions viennent de toutes parts. Puisque dans la même journée, et ça témoigne un peu de cette différence-là, mettons. Puisqu'à l'époque de Brian Mulroney, il avait tenté de réunir le Canada. Échec du lac Minch, sa plus grande déception à vie. Comme il le disait lui-même, Son plus grand regret, l'échec du Lightning. Ça. Bon, on n'est pas tout à fait dans les mêmes considérations avec François Legault et Justin Trudeau, mettons. C'est la bonne entente entre fédéral et provincial. Et sur le bord, de pogner le bord, parce que on repart avec une bonne vieille guerre fédérale-provinciale. Cette fois-ci sur la loi 21. Loi 21 qui demande à ce que tout employé, employé des services publics ou qui donne un service avec le public ne porte pas de signes religieux sur eux. Les policiers, douaniers, c'est fédéral, mais gardiens de sécurité, mettons. Surtout les enseignants, où ça devenait... où il y avait un peu plus de questionnement. Il y avait eu le cas de cette aide à la classe qui portait le voile et qu'en vertu de la loi 21, elle avait été mise dehors ou en tout cas, elle avait été réaffectée à d'autres tâches qui n'étaient pas en lien direct avec les enfants. La Cour d'appel du Québec valide presque tous les articles contenus dans la loi sur la laïcité de l'État et infirme également la décision du précédent juge Marc-André Blanchard au sujet des écoles anglophones. Ces derniers les avaient soustraites du champ d'application de la loi évoquant le droit des minorités linguistiques à gérer leurs propres institutions. Et c'est là où également il y avait un deuxième point qui était fait sur la loi 21. C'était que, justement, les écoles anglophones voulaient être à part, voulaient être mis de côté de cette décision-là. Évidemment, ça ne passait pas. Le gouvernement se défendait en disant oh, « c'est pas vrai qu'on va avoir deux Québec, on n'aura pas deux systèmes scolaires. » On a décidé, le gouvernement, que tout le monde, surtout les enseignantes, retirait leur signe religieux distinctif. Et ce, malgré la pénurie de professeurs. La décision de la Cour d'appel se distingue surtout de par le ton qu'elle emploie et la forme qu'elle revêt. Le juge Blanchard avait avisé la plupart des dispositions de la loi 21, mais son agacement était perceptible dans le jugement qu'il avait rendu. La Cour d'appel offre un regard bien différent. Les juges embrassent large d'entrée de jeu. Ils parlent du rôle qu'a joué la religion dans l'histoire du Québec, évoquent les débats qui ont traversé la société québécoise ces dernières années sur les questions de la laïcité et rappellent les conclusions de la commission Bouchard-Taylor, surtout, on semble présenter la loi comme le fruit d'un compromis. Est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que la religion au Québec, surtout catholique, a tellement dicté la première moitié du 20e siècle? Les femmes à maison faites des enfants, ça a tellement été ancré. Et quand justement le monde de cette époque-là, on dit c'est terminé, bien, il s'est développé un peu cette aversion-là pour la religion. Donc, oui, sur la partie tout le monde égal, aucun signe, ce bout-là est comprenable, la compréhension, et voilà. Mais ça franchit des limites extrêmement rapidement. Ce pourquoi, et ce malgré que la Cour d'appel donne raison au gouvernement de François Legault, qui évidemment se pète les bretelles d'avoir enfin une bonne nouvelle, bien, du côté fédéral, évidemment, on vient dire bien, la Charte des droits prévoit que tout le monde est égaux, n'a pas à être brimé. D'où pourquoi le gouvernement fédéral va sûrement envisager de s'ingérer un petit peu dans le dossier. Parce que si on sera en Cour supérieure, on sera à la Cour du Canada. Si en plus la loi 21 est renversée en Cour du Canada, ça va dire que le fédéral s'ingère dans la gestion des provinces. Donc, tout le monde est un peu perdant dans ce gros dossier-là. Au sens où il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce qu'il allait de toute façon se rendre en Cour suprême avec le dossier. Et la même raison peut être invoquée dans les deux cas, parce que si on avait dit à François Legault que son projet est discriminatoire, il aurait été se battre pour dire « On a le droit de décider au Québec ce qu'on veut faire de notre province. » Et inversement, maintenant que c'est Legault qui gagne, le fédéral dit qu'il va aller défendre les droits de tous les Canadiens à ne pas être brimé. Si la loi est jugée valide, c'est essentiellement parce que le gouvernement québécois a choisi d'invoquer la disposition de dérogation prévue à la Charte des droits canadiens à la Charte canadienne des droits et libertés, pardon. Les juges rappellent en effet que les gouvernements qui recourent à cette disposition n'ont pas à se justifier, pas plus que les tribunaux n'ont à se prononcer sur le bien fondé d'une telle décision. Donc, on le sait qu'on va brimer certaines personnes. Mais au Québec, on prend cette décision-là de bannir les symboles religieux distinctifs. À peine la décision de la Cour d'appel avait-elle été rendue que le ministre fédéral de la Justice promettait d'intervenir devant la Cour suprême pour défendre la Charte canadienne des droits et libertés, notre gouvernement a de vives inquiétudes quant au recours préemptif à la disposition de dérogation, écrivait Arif Viriani dans un communiqué du gouvernement Trudeau. Parce qu'évidemment, c'est sûr que ça allait déplaire, que la loi 21 n'est pas une loi parfaite. Donc, en prévision d'éventuelles poursuites, d'éventuelles conséquences, on inscrivait cette clause-là pour dire, bien, on le sait déjà, puis on l'assume. Victoire sur le plan juridique, la décision de la Cour d'appel est aussi un gain sur le plan politique pour la CAQ, sous le feu des critiques pour les difficultés qu'il éprouve à soutirer le moindre avantage du gouvernement fédéral. François Legault pourra faire valoir que sa stratégie donne des résultats. Parce que oui, il n'arrête pas de dire qu'il va aller chercher des pouvoirs au gouvernement Trudeau, hein, qu'on va être full autonome sur l'immigration, mais il n'en est rien. Et il voulait un mandat fort des Québécois pour réclamer des pouvoirs. Il ne les a pas. Le jugement vient conforter la posture nationaliste du premier ministre du Québec qui, lui, soutient depuis son élection qu'il est possible pour le Québec d'affirmer son identité distincte tout en demeurant au sein de la Fédération canadienne. On n'oublie pas que François Legault, ancien membre du PQ, ne veut plus se séparer. Mais rester dans un Canada uni, c'est quoi? Une fédération canadienne inclusive, je sais pas. À un moment donné, on vient qu'on ne sait plus. La loi 21 est jugée valide. La décision renforce aussi l'idée qu'une utilisation plus proactive de la disposition de dérogation permet au gouvernement d'atteindre ses objectifs à cet égard. Depuis son adoption, Des indépendantistes attendent à ce que les tribunaux fassent invalider la loi 21 et croient que cela pourrait donner du carburant à leur cause. Pareil scénario ne peut toutefois pas être tenu pour acquis, comme le montre la décision unanime des juges de la Cour d'appel. On ignore encore si la Cour suprême acceptera d'entendre la cause, parce que déjà, en partant, il faut qu'ils disent « oui, on va prendre le dossier ». Le cas échéant en faveur de qui elle tranchera. Il faudrait certes déployer bien des efforts pour déconstruire le jugement dense et amplement documenté rendu mercredi, mais ça s'est déjà vu. Parce que c'est pas un petit jugement qui a été rendu, c'est une espèce de gros document de 3000 pages, si je me souviens bien. Une espèce de grosse brique. Et on souhaite que les gens n'ont pas demandé chacun une copie. Mettons que le PDF pourrait être intéressant à un certain... À un certain moment donné, parce que là, 3000 pages, en plus, c'est recto verso. Je pense pas, mais si en plus, c'est recto verso, 6000 pages. Ugh. Même d'une, c'est pas aussi dense. Il serait sage de part et d'autre d'attendre encore un peu avant de tirer des conclusions définitives sur l'implication politique de ce jugement. Pour l'instant, toutefois, le gouvernement a des raisons d'être satisfait, parce qu'encore une fois, ça y fait enfin une victoire sur quelque chose. Parce que depuis une couple de temps, c'est pas ça qui règne les victoires du côté de la CAQ. Donc, bravo pour eux, mettons. Ça reste quand même un peu problématique de l'autre côté, mais évidemment, il y a toujours deux côtés sur une médaille. Reste à voir si réellement le gouvernement Trudeau va vouloir s'engager encore plus dans ce débat-là. Surtout à la veille d'une période électorale où ils commencent à être en difficulté du côté québécois. Est-ce qu'ils veulent rajouter une bûche dans le fait qu'ils sont en train de perdre un peu partout? La question se pose. On regardera ce nouveau sondage qui était paru cette semaine d'ailleurs. Tout de suite après cette courte pause, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Simon Kearney, combien d'entendre en musique avec l'île d'Orléans, nouveau single qui vient de paraître. J'en parlais un petit peu avant dans l'autre bloc. Nouveau sondage qui est sorti cette semaine sur les intentions de vote des Québécois. Et en même temps, au passage, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de la filière batterie Nordvolt. Est-ce que cette fameuse majorité silencieuse dont se targue, dont se vante Pierre Fitzgibbon existait-elle réellement? Oui puis non. Quand on demande, êtes-vous favorable à Nordvolt? Additionné, 53% des gens sont en faveur contre 30% qui sont contre ou très défavorables et 17% ne savent pas. Par parti politique, évidemment, la CAQ, c'est très favorable. QS et étonnamment le Parti conservateur sont les deux moins emballés par Nordvolt. Conservateur à 43% contre et additionné, très favorable, défavorable, même chose pour les gens de QS. À peu près égal, PQ, Parti libéral. Question qui est intéressante et qui est très vraie, et ce qui n'arrivera pas, malheureusement, parce que on contourne les règles allègrement, gracieuseté de Fitz. Croyez-vous que le méga projet d'usine de batterie de l'entreprise Nordvolt devrait être soumis à une enquête et une consultation publique réalisée par le Bureau d'audience publique sur l'environnement? Je les avais débaptisés la semaine dernière, mais c'est bien le Bureau d'audience publique sur l'environnement, un fameux BAP. Et dans toute la province, on dit que oui, il devrait y avoir un BAP avant de tout foutre le bordel du côté de Saint-Basile. Additionné, on est à 68% pour, que ce soit sur l'île de Montréal, en banlieue, dans la région de Québec ou dans le reste du Québec. « Saviez-vous que le ministère de l'Environnement a modifié la réglementation applicable au méga-projet Nordvolt avant son annonce publique, ce qui a eu pour effet de ne pas faire de BAP obligatoire? Êtes-vous en accord ou en désaccord avec cette approche du gouvernement? Mixez ensemble pour l'ensemble des votants, 53 % contre, 36 % pour. Évidemment, les gens qui votent pour la CAQ sont d'accord avec cette manière de faire, ceux qui sont contre, Québec solidaire et le Parti conservateur. Vraiment, les conservateurs sont surprenants là-dessus. Additionner 81 % sont contre du côté de QS et additionner côté conservateur, on monte quand même à 64, 65. Et si une élection provinciale avait lieu aujourd'hui, pour quel parti voteriez-vous? Moment croustillant. C'est pas Saint-Pierre Plamondon qui l'emporterait. 30 % des intentions de vote. C'est des élections... Oui, c'est le bon. 31 % Ben, 30,3 % Parti québécois. Pour M. Plamondon, 21 % pour la CAQ. 15,3 pour Québec solidaire, 12,7 pour le Parti libéral et 12,1 pour les conservateurs. La tendance à la hausse du PQ se confirme. Bon, on la savait, mais elle est de plus en plus claire. Quand on parle de l'alternance du pouvoir, ça a été longtemps libéral-PQ, libéral-PQ. Bien, ça a été longtemps, depuis que le PQ existe. Parce qu'avant, c'était conservateur-libéral. Puis, PQ-libéral. Et dans la grande roue de rotation, comme Pauline Marois était là, on l'a échangé pour Philippe Couillard, ça a donné ce que ça a donné. Finalement, François Legault est rentré. Ça donne ce que ça donne. Et donc, la suite logique, c'est le Parti québécois. Puisqu'ils sont venus interrompre cette alternance-là, mais en ce moment, le Parti libéral étant tellement tellement bas dans les intentions de vote, qu'à part sur l'île de Montréal, les gains sont difficiles. Ben, y a autour de Gatineau. Mais le point commun de tout ça, malheureusement pour eux, c'est que c'est des comtés anglophones. Et c'est leur seul moyen de survie en ce moment, les comtés anglophones. Parce que le vote francophone du Parti libéral est à moins de 10 %. S'il est même pas moins de 5 %. Donc, ça va très, très mal. Le Parti libéral ne rejoint plus les gens. Ce qui donne toute la place au Parti québécois, parce que même s'ils ne sont que 4, ils savent se battre. Petite comptine en joke, au passage, clin d'œil. Ce qui est d'ailleurs inquiétant pour le Parti libéral, c'est qu'un redécoupage électoral s'en vient. Selon la loi électorale, la carte doit être révisée. Et évidemment, ben, du côté du Bas-Saint-Laurent, on a un peu peur que la Gaspésie et Rimouski fusionnent pour ne donner qu'un seul comté, pour en faire davantage dans les Laurentides et la Naudière, où on donnerait deux comtés là, mais en enlevant un sur l'île de Montréal, et l'autre dans le Bas-Saint-Laurent. Règle générale, on veut le statu quo, mais on tente tout de même de pousser l'idée que ça serait bon d'enlever deux comtés à Montréal à la place, d'en donner aux régions, Et la CAQ va même jusqu'à dire que ça prendrait 4 nouveaux comtés et non pas modifier, d'en rajouter. Donc, plutôt que d'être 125 députés, monter ça à 129 députés. Et le 125 députés est là depuis très longtemps, donc ça serait de rouvrir la Charte québécoise, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais en tout cas, revoir les règles en entier pour rajouter 4 chaises de plus. Et ça, évidemment, c'est à l'avantage des régions de rajouter des chaises, tout en les enlevant un petit peu à Montréal. Mais ça, évidemment, le Parti libéral, leur enlever des comtés à Montréal, c'est pas ce qui leur est le plus avantageux. Donc, évidemment, pour redécouper la carte au sens de toucher à l'île de Montréal, eux vont être contre et proposent le statu quo. Ne pas toucher à rien jusqu'à la prochaine élection. Ou du moins, reprendre les discussions au terme de la prochaine élection, je devrais plutôt dire. Reste à voir si réellement on aura une carte telle quelle avec les 125 circonscriptions actuelles, s'il y aura du redécoupage de modifications de circonscriptions, ou si c'est le statu quo et on en reparlera dans 3 ans. Évidemment, il y en a qui ont peur pour leur job, c'est sûr et certain. Mais ça reste quand même un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et où est-ce qu'on en rajoute? Et rajouter des sièges dans le Salon Bleu, c'est aussi un gros point d'interrogation parce que ça ne se rajoute pas de même des bureaux. C'est déjà qu'ils veulent repenser la reconfiguration, qu'ils veulent refaire la configuration du Salon Bleu. Déjà là, de faire « ouais, on va rajouter 4 chaises là-dedans », ça devient compliqué. Donc, un beau petit projet qui s'en vient. Qu'adviendra-t-il du découpage québécois? On le verra bientôt, mais ça ne fait quand même pas consensus là-dessus. On s'arrête quelques instants, on retourne. On va parler cinéma. Ici même sur les ondes de CFAQ et sur les ondes de CHIS, vous écoutez le deuxième service. Valence, qu'on vient d'entendre en musique avec Allaitant des roseaux sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIS 94.3. Bande annonce tout de suite, parce que ça prend l'affiche aujourd'hui même, d'une 2 de Denis Villeneuve.
Ça va aller, je suis là. Ça faisait un moment que t'avais pas eu un de ces cauchemars. Raconte-moi, qu'est-ce que t'as vu?
Ce sont seulement des fragments. Il n'y a rien de clair. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies.
Vas-y!
Ma famille les combat depuis des siècles.
Ton sang, c'est celui des ducs et des grandes maisons. Ici, on est égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour le bien du groupe.
Eh bien, j'aimerais beaucoup être égal à toi.
Peut-être que je vais te montrer comment.
Que ferais-tu de ce prophète? Tu enverrais des assassins?
Fade Rauta? Il est fou allié.
Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans beaucoup de ces avenirs, ils triomphent. Mais je distingue un chemin étroit menant à la victoire.
De pouvoir que notre monde n'a pas encore connu. Le pouvoir ultime.
Je veux que tu saches que je t'aimerai tant que je respirerai.
Tu ne me perdras jamais. Tant que tu resteras qui tu es, je serai là.
Vois ce que tu t'apprêtes à faire, Paul.
Silence!
Cette prophétie est leur façon de nous asservir! Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend.
Un film pas du tout laïque qui mettrait en beau maudit François Legault. La deuxième partie de Dune de Denis Villeneuve, le duc Paul Atréides tente d'accorder son désir et de se venger de l'attaque de la maison Harkonnen contre son clan en capitalisant sur son statut de sauveur potentiel auprès du peuple Fremen. Mais si certains croient dur comme faire en la prophétie, d'autres se montrent beaucoup plus sceptiques quant à la réelle raison de l'existence de celle-ci. En coulisses, Jessica, dame Jessica, appelée à jouer un rôle de la plus haute importance chez leurs hôtes, tente de tirer les ficelles pour accentuer l'influence de son fils. Mais Paul demeure hésitant à aller au bout de ses visions, craignant qu'un voyage sur la planète Arrakis puisse avoir des conséquences catastrophiques sur un nombre incalculable de vies. C'est le résumé de cette deuxième partie. Ou le synopsis, on peut l'appeler plutôt comme ça. C'est vraiment meilleur que le premier. J'ai réécouté pour le fun, pas l'entrevue, mais la... Non, ça aurait été ben trop beau de parler à Denis Villeneuve cette semaine. Non, j'ai réécouté la critique que j'avais faite de Dune 1 il y a 3 ans, lorsque le film était sorti. Puis même pas, c'était comme... 3 semaines après, fait que je ne m'étais pas garoché au cinéma pour aller voir Dune 1, de par le fait, entre autres, que j'avais aucune connaissance du tout. T'sais, je ne connaissais pas le film, le vieux film. J'avais pas lu les livres non plus, donc j'arrivais complètement vierge d'informations de Dune 1. Donc, mon appréciation était mitigée. Ironiquement, comme je le disais, peut-être après d'un deuxième ou un troisième visionnement, ça allait être meilleur. Et effectivement, c'était un peu meilleur après le visionnement. Parce que plutôt en prévision de voir le deuxième film, on rediffusait le premier dans les quelques semaines auparavant. Comble de la chance également, la représentation que j'y étais, j'étais tout seul, donc j'avais une grande salle à moi tout seul pour regarder Dune 1. Et j'ai mieux aimé ça la deuxième fois, parce que je voulais l'écouter à un moment donné sur Netflix, mais ça m'est sorti de l'idée, puis je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, l'ayant en tête, surtout, le deuxième devient beaucoup plus digeste, au sens où... Il y a beaucoup d'informations, et ça arrive beaucoup dans ce genre de film-là. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations, beaucoup de noms à retenir, et c'est relativement difficile si on n'y prête pas attention vraiment très, très une attention très particulière. Donc, c'est pour ça que le revoir, on a déjà un petit peu en tête l'histoire, fait que là, on peut se concentrer un peu plus sur la situation, mais... Reste quand même que dans le deuxième film, il y a énormément plus d'action que dans le premier. Le premier servait réellement à planter les personnages, planter le décor, comprendre dans quel univers on allait évoluer. Et ce que j'aimais pas justement, c'est quand le premier film se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Au sens où on termine, on arrive au village des Fremen, me semble, ou en tout cas, on est en direction d'eux. Et le deuxième film reprend à peu près exactement où le premier se termine. Et il n'y a pas 5 minutes en commençant le film de « Je m'appelle Paul, je suis le fils de... » Il est arrivé ici, ça. Puis dans... Tu sais, il n'y a pas de récapitulatif avant de partir le deuxième film. Ou s'il y a de la mise en contexte, elle est extrêmement minime. Parce que c'est conçu pour être écouté les uns après les autres. Ça fait beaucoup de films, par exemple. C'est quand même 2h30 le premier, le deuxième 2h45. C'est quand même beaucoup de films. Fait que ceux qui vont l'écouter les deux back-à-back, ou en tout cas s'il y a des projections, surtout je pense à Montréal, il y a des projections, les deux films un en arrière de l'autre, ça fait beaucoup de cinéma. Mais... visuellement, le deuxième Dune est impeccable. Je comprends les critiques d'être dithyrambique et de me virer sur le top avec ce qui est sorti. C'est peaufiné, c'est bien fait, on y croit. Il y a pas, tu sais, les effets spéciaux sont convaincants. Le gros vert, il est dégueulasse. Tu sais, il y a tellement de précisions et de détails qui ont été mis là-dessus. Que ça en est crédible, c'est bon, on y croit. Que justement, oui, c'est une certaine classe de maître que Denis Villeneuve propose, au sens où, dans le genre cinématographique, dans le genre de science-fiction, il n'y en a pas beaucoup de ce calibre-là. Tu sais, vraiment peaufiner, travailler. Tu sais, il y a beaucoup de films qu'on a des budgets de 200 millions, 250 millions, puis qu'on se dit, mon Dieu, l'argent est-tu vraiment dans le film? Dans le cas de Dune, c'est pas difficile de le croire. L'argent a été bien investi, ça c'est le cas de le dire. Le film devrait bien fonctionner également, parce que souvent, on dit, oh, la suite, c'est jamais moins bonne que le premier. Celui-là, il était conçu pour que la deuxième... C'est mon impression, peut-être c'est pas ça, mais mon film, c'est un budget 190 millions US. Ça paraît qu'il y a de l'argent qui a été mis là-dedans. Il y a du détail qui a été mis là-dedans dans Dune 2. Tu sais, oui, faut être vu sur grand écran. Faut que ça soit vu sur grand écran. C'est comme le premier, le petit écran de la maison ne rend pas justice. Ne serait-ce qu'on parle de la musique de Hans Zimmer. J'en parlais également lorsque le premier est sorti, mais le deuxième aussi. Ça vient tellement bien compléter le film. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de flottement, ça passe quand même assez rapidement, mais encore une fois, faut avoir en tête le premier film. Si la dernière fois qu'on a vu le premier film, c'était quand il est sorti en 2021, ça va être trop loin. Faut revoir le premier film avant de voir le deuxième. C'est un must obligatoire parce que justement, on ne prend pas le téléspectateur par la main de... Tu te souviens, ce personnage que nous avons croisé dans le premier film? Tu sais, celui qui a fait telle affaire, telle affaire, telle affaire... Oui, ben c'est ça. Tu sais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et c'est tant mieux aussi. Parce que des fois, ça se prête bien. Tu sais, mettons les Marvel qui, justement, sont obligés, tellement qu'ils ont de stock, de faire des références aux autres œuvres, parce que sinon, des fois, on peut en perdre certains bouts. Autant que dans celui-là, vu que c'est une suite directe, vu que ça a été conçu pour être une suite directe, ben ça devient obligatoire d'avoir vu la première partie. Peut-être qu'il y aura-t-il un jour la version Denis Villeneuve d'un 5 heures complet des deux films ensemble pour que ça soit bien mixé ensemble. Sait-on jamais, un director Scott, comme on appelle, le Denis Villeneuve Scott, ou Villeneuve ou Villeneuve, parce qu'ils sont pas capables de dire Villeneuve aux États-Unis. C'est assez particulier, mais tu sais, il pourrait y demander. Il pourrait y demander avant de le présenter, comme on dit ton nom de famille. Mais Noévé, j'ai déjà entendu Noévé aussi pour Denis Villeneuve. Tout ça pour dire que je suis beaucoup plus enthousiaste avec la suite. Salutations à Guillaume, directeur technique à Québec. Là, j'ai aimé ça, Dune. Là, j'ai aimé ça. Fait que vraiment, ça vaut la peine. Si on a vu le premier film, d'aller voir le deuxième en salle, c'est un must de le voir en salle. Donc, Dune 2, ça prend l'affiche aujourd'hui même, officiellement, en ce 1er mars. Donc, c'est la première fin de semaine. Jean de la fin de semaine, salutations, évidemment. On s'arrête quelques instants. On retourne la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Gab Bouchard, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Avait lieu cette semaine l'anniversaire de Pokémon, sorti en 96. Célébrait le 28e cette année de Pokémon et on l'a célébré de manière assez rapide et on clenche. Au sens où, dans les autres années, on faisait peut-être des vidéos un peu plus longues, on expliquait les produits qui s'en venaient, on mettait du détail et tout ça dans le cadre du Pokémon présente. Et cette année, on l'a clenché très rapidement. On a fait, bon ben, telle application, connecte-toi tel jour, tu vas avoir un bonus. L'autre application, telle affaire, tel jour, merci, bonsoir. Tu sais, on l'a passé rapidement, parce qu'ils savent qu'ils ont quand même beaucoup de produits. Unite, Sleep, quels autres? Unite, Sleep, et on a mis l'emphase sur les deux grosses nouveautés. Et ça, surtout dans le cas de Pokémon, de parler de seulement... deux nouveaux jeux, un mobile et un pour Switch, c'est particulier. Parce qu'on était habitué d'avoir plus de contenu que ça. Donc, est-ce qu'on a enfin compris du côté de la maison mère que, ouais, si on veut faire des applications puis tout ça à tout bout de champ, on peut commencer à mettre la pédale douce, peaufiner le produit et arriver avec quelque chose de plus abouti? Parce que dans les dernières années, ce qu'on reproche surtout à l'univers et aux jeux Pokémon, c'est qu'ils sont assez faits rapidement Et c'est pas mal tout le temps la même affaire. On part d'une ville, on s'en va jusqu'à la fin, on combat les quatre de la fin et on devient maître. Évidemment, Scarlett et Violette permettaient d'aller se promener un petit peu plus librement. T'sais, on pouvait aller directement à la dernière arène avec des Pokémon de très bas niveau. C'est pas recommandé, mais ça pouvait être fait. C'est un monde ouvert. Mais après ça, est-ce que les mondes ouverts, justement, étaient les plus peaufinés, les plus visuellement très beaux? Ça dépendait où qu'on allait. Et le désert de sable, il est très, très désertique. Les grandes plaines dorées, là, c'est longtemps un désert vide parce qu'on n'a pas mis beaucoup de texture. Fait que tu sais, on l'avait déjà expérimenté avec Arceus, d'avoir un monde ouvert, d'aller se promener, de juste ramasser des Pokémon. On a essayé de le mixer pour Écarlate et Violet, Scarlet, Violet. Qu'adviendra-t-il du prochain opus? Un hybride de ces deux-là. Déjà des hybrides apparemment. On ne sait pas. Probablement, en fait. Puisque les deux titres à retenir pour ce lancement, éventuellement lancé, cette année, c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner Pokémon. Donc, on peut maintenant avoir des cartes virtuelles, des cartes qui existent déjà et ou approfondir ses connaissances sur les cartes Pokémon. Avec des paquets de cartes virtuelles à déballer. On peut jouer également au jeu de cartes sur cette application-là, devrait paraître cette année. Mais le titre qui a retenu l'attention, c'est finalement Pokémon Z ou Pokémon AZ, ça dépend à qui on demande, sous la branche Légende. Donc, après Légende Arceus, Légende Zygarde, mais comme c'est AZ, et là, les théories sont parties de plus belle sur les réseaux sociaux, la Légende AZ veut qu'un personnage dont les initiales sont AZ, dans la cinquième génération, en le disant, j'ai commis un doute, sixième, cinquième, enfin, la région qui se passe à Paris, Lumiose, en version française. Donc, on arrive dans cette région-là, mais encore là, on ne sait pas à quelle époque on va se retrouver dans ce monde-là. La génération 6, c'est Kalos, dis-je bien. Puisqu'à Kalos... C'est ça se passe en région parisienne, dans le nord de la France. Mais pour l'instant, on a seulement dévoilé la ville principale, soit l'équivalent de Paris, Lumiose, ville lumière. Comme le personnage d'AZ a fait partie de la Grande Guerre il y a 3000 ans, dans le jeu toujours, va-t-on revenir 3000 ans dans le passé pour assister à cette Grande Guerre, la Grande Guerre de Pokémon? On ne le sait pas. Est-ce qu'on aura à côtoyer un certain personnage qui perd un certain autre personnage parti au front? On ne le sait pas. Ou, selon les autres théories, sommes-nous seulement dans un Paris des années 1800? Donc seulement 100-150 ans derrière. Sait-on jamais? Parce que techniquement, les bâtiments... Ce sont les actuels vieux bâtiments de Paris. Donc, à quel point on retourne dans le temps? Ce bout-là n'est pas certain. Donc, beaucoup de suppositions, évidemment, parce que peu d'informations dévoilées, ne serait-ce que les contours du prochain jeu. Ce sera à découvrir l'année prochaine, les premières images. Parce qu'évidemment, on se garde de donner plus d'informations que... On retourne à Kalos. On retourne dans la sixième génération. Et c'était une génération qui était un petit peu oubliée aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu X et Y. Z n'avait jamais vu le jour. Et c'est pourquoi, maintenant qu'il est sous la branche légende, AZ ou ZA, mais surtout AZ, pour le personnage du même nom, dans la région de Kalos. Il y a une génération sur YouTube également qui fait un petit peu le récapitulatif de cette, la guerre de 3000 ans, d'il y a 3000 ans. À découvrir ce que ça donnera. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.